Bon midi, Hélène.
Bon midi, Martin.
Parlons de cette journée du 1er mai, c'est le salaire minimum.
Oui, donc une hausse de 50 sous du salaire minimum, ce qui va le porter au Québec à 12,50 $. C'est sûr, il y en a qui vont dire que ce n'est pas une grosse augmentation, mais quand on le regarde en pourcentage du salaire, c'est 4,17 %, donc en haut de l'inflation, ce qui veut dire que les gens qui travaillent au salaire minimum, leur pouvoir d'achat augmente quand même plus que l'inflation.
Mm-hmm.
Les gens pourboires, donc leur salaire augmente à 10,5 $. Et savais-tu, Martin, qu'il y a aussi un salaire minimum pour les cueilleurs de fraises,
oui,
et les cueilleurs de framboises?
Ben oui, c'est,
oui,
vrai.
C'est étonnant. Donc, c'est un salaire qui est au,
ouais,
bois, là, mais...
Ça aussi, c'est majoré, puis là, on va amorcer la saison des cultures, alors eux aussi verront une certaine bonification.
Exactement. Puis ça, cette hausse-là va toucher au Québec 290 000 travailleurs, dont à peu près 58 % de ces travailleurs-là sont des femmes. Bon, maintenant, on va se comparer un peu, puis on va élaborer un petit peu pour voir qu'est-ce que ça représente... vivre avec un salaire quand on est payé 12,50 $. Donc, est-ce que c'est assez si on se compare avec les autres provinces au Canada? On va avoir une parité, donc, de salaire minimum avec l'Île-du-Prince-Édouard. Et les provinces plus riches comme l'Alberta, la Colombie-Britannique, ben eux, l'Alberta sont déjà à 15 $ et la Colombie-Britannique, dans un mois, vont être à 13,85 $. L'Ontario sont à 14 $ de l'heure. Toutes les autres provinces sont en bas de, oui, du salaire minimum qu'on va avoir au Québec. Donc, on le voit, les provinces plus riches, le salaire monte un petit peu plus. Puis, c'est des villes aussi. Bien, ces provinces-là, il y a beaucoup de villes où ça coûte très cher vivre.
Le coût de la vie est différent.
Tout à fait. Hein?
Et j'élargirai ça aussi. Puis, on aura l'occasion d'y revenir d'ici la fin de l'émission. Mais il y a toute la portion également d'impôts, d'allocations.
On va y revenir, c'est ça?
Ouais.
Oui, tout à fait. Donc, une mesure aussi qui est intéressante de regarder, c'est toujours comment le salaire minimum évolue par rapport au salaire moyen de la société.
Oui.
Et là, avec cette hausse-là, selon une étude produite par Suzy Saint-Cerny puis Luc Godbout, là, de la fabuleuse chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques,
oui,
de l'Université de Sherbrooke, là,
oui,
on voit que là, on devrait atteindre 50 % du salaire moyen. On va regarder, Pierre Fortin avait fait une étude en 2016, mais il y avait déjà des projections pour 2018-2020. Mmh. Donc, en Alberta, là, en 2018, eux autres, ils atteignaient 48 % du salaire moyen. Donc, bien que leur salaire minimum soit plus élevé que nôtre, il est plus faible comparé à ce que les gens gagnent en moyenne. C'est-tu clair?
Ben oui.
Good.
Ben oui.
OK,
non,
on continue.
L'image est claire, nette et précise.
C'est ça.
Parce que c'est ça, il faut comparer des pommes avec des pommes, là.
Tout à fait.
Ouais,
puis,
oui.
Dans son étude, Pierre Fortin, c'était intéressant parce qu'il avait été faire aussi des comparaisons avec les États américains qui, eux, il y en a qui ont décrété... Des fois, c'est pas juste au niveau de l'État. Parfois, c'est au niveau des villes qui ont,
oui,
un salaire minimum dans la ville.
Oui.
Donc, ceux qui avaient le plus haut salaire minimum, et eux, bon, San Francisco, en 2018, même si le salaire est plus élevé, donc 40 % seulement du salaire moyen.
Mm-hmm.
New York, 46. Washington, 42. Seattle, 44. Californie, 46. Donc, on voit, nous autres, qu'ici, en atteignant 50 % du salaire moyen, ce qui veut dire que relativement, notre salaire minimum est plus élevé qu'à certains autres endroits. M. Fortin, lui, dans son étude, hein, il soutenait que si on rapetisse trop cet écart-là, ben, ça encourage les jeunes à décrocher.
Oui.
Ils se disent, pourquoi faire aller chercher, oui, un diplôme? Je ne vais pas gagner beaucoup plus que ça. Donc, ça menait aussi à une robotisation un petit peu plus rapide avec une perte d'emploi. Donc, c'est pour ça qu'on veut toujours regarder comment ces deux salaires-là évoluent l'un par rapport à l'autre.
Oui.
Maintenant, tout à l'heure, tu parlais, oui, au Québec, il y a beaucoup de crédits, puis on sait que les crédits d'impôt, souvent, vont être dirigés plus vers les ménages à plus faible revenu. Dans une autre étude de Mme Saint-Cerny puis M.
Oui.
Godbout, justement, on a regardé un travailleur, par exemple, qui travaille au salaire minimum, combien il lui reste de revenus disponibles. Une fois qu'il a payé ses impôts, ses cotisations,
oui,
Puis une fois qu'on a additionné tous les crédits qu'il reçoit du gouvernement.
Et les allocations et tout le reste, là?
Tout à fait.
Oui.
Donc, une personne seule, son revenu disponible va être de 20 700 $. Puis ça, on le compare après ça à une mesure de, du panier de consommation.
Ouais.
Puis ça nous permet de voir si la personne couvre ses besoins de base.
Oui.
Et à 20 700 $, le travailleur seul, ben, il couvre un peu plus que ses besoins de base parce qu'il est à 113 % de cette mesure-là.
Et le 20 000, là, c'est pas
c'est ce qui lui reste dans ses poches.
C'est ce qui reste dans les poches, là.
Exact, là. Oh, une fois que...
Tout est payé.
Tout payé, tout reçu.
Oui.
On va regarder maintenant un couple avec deux enfants, par exemple, et il y en a juste un qui travaille.
Mm-hmm.
Ben, on aurait 42 400 $ de revenus disponibles qu'ils peuvent dépenser ou épargner. Et encore là, ça couvre 116% des besoins de base. Donc, on est un petit peu en haut. C'est pas la grosse vie, mais on couvre les besoins de base.
Ouais.
Une famille qui aurait deux parents qui travaillent puis deux enfants, mais eux, ça leur donne 147% des besoins de base qui sont intéressants.
Hélène, est-ce que ça vient pas déboulonner un peu l'argumentaire, entre autres, des centrales syndicales de tout ce mouvement là du salaire minimum à 15 $? Et qui omettent malheureusement souvent dans leur argumentaire là, ce qu'on vient de parler, c'est-à-dire l'impôt, les allocations, puis de comparer des pommes avec des pommes.
Tout à fait. Puis c'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, ce beau petit bijou-là qu'on a à Sherbrooke, là, cette chaire de recherche-là, ils font beaucoup d'études, toujours très appliquées, qui nous permettent d'éclairer le débat. Peut-être, si ça t'intéresse, on pourrait regarder aussi, parce que souvent, les gens... quand on parle de salaire minimum, parle aussi de salaire minimum garanti, revenu minimum garanti.
Oui, oui, oui.
On n'a pas cette mesure-là au Québec, mais on sait qu'à travers l'aide sociale, les crédits puis tout ça, on aide les gens qui n'ont pas de revenus.
C'est une certaine forme de revenu garanti.
Oui, exactement. C'est parce que la notion de revenu garanti s'applique aussi comme aux travailleurs à toutes les personnes de la société. C'est pour ça, c'est un peu différent sur le fond.
Oui.
Donc, je te donne l'exemple. Là. Encore là, on parle de revenus disponibles. Donc, ce qui reste dans les poches des gens pour dépenser, un couple avec deux enfants, le couple, là, il n'y en a aucun qui travaille, et même s'ils sont aptes, ils vont recevoir 29 200 $ en tout et partout de l'État.
L'aide sociale, il reste là.
L'aide sociale, les allocations, crédit de solidarité, tout ça. Fait qu'ils reçoivent 29 200 $ et là, ça couvre 83 % des besoins de base. Donc, on réussit pas à combler à 100 % mais quand même, on s'en approche. Et je vais vous donner un dernier exemple. Une personne seule, elle, on va lui donner 9 000 quelques dollars et ça va couvrir seulement 52 % de ses besoins. Ce que ça veut dire, ça, là, puis là, on pourrait détailler un paquet de points, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on tend à être plus généreux dans les milieux où il y a des enfants.
Oui.
Parce qu'on veut protéger d'une certaine façon les enfants qui, eux, ne choisissent pas de travailler ou pas travailler ou ne choisissent pas l'environnement dans lequel ils grandissent.
Oui. Oui, intéressant. Puis en même temps, ben, il faut aussi que, c'est parce qu'on le dit, l'aide de dernier recours, là, que ce soit ça également. Puis il faut faire la nuance aussi à ceux qui sont inaptes au travail. Ça, c'est autre chose. Il faut vraiment faire cette nuance-là. Et d'ailleurs, on doit parler au prof Luc Godbout d'ici la fin de l'émission. Alors, ce serait intéressant également de jaser parce qu'ils ont publié des chiffres que tu mentionnes d'ailleurs et qui sont extrêmement pertinents. Un mot sur l'anxiété des jeunes.
Oui, on entend beaucoup parler ces derniers temps de l'anxiété chez les jeunes. Puis je voyais dans la tribune le Statistique Canada qui a sorti une enquête. Puis on y apprend qu'il y a 14,3% des enfants de 2 à 5 ans qui montrent des signes de troubles émotifs ou d'anxiété. Ils sont tout petits et c'est quand même une grosse proportion.
Oui.
Bon, on parle aussi de ceux qui ont reçu des diagnostics de santé mentale, mais ça, c'est autre chose. Puis, c'est ça, depuis quelque temps, tu sais, on parle beaucoup des soins en santé mentale, l'anxiété. Moi, je suis arrivée au cégep, c'est une des premières choses qui m'a frappée. Il y a 12 ans, les jeunes sont très anxieux et il y en a plusieurs que ça dérange leur quotidien.
Oui.
Bons étudiants en classe, incapables de terminer un examen. Mais donc, on le voit chez les très petits. Puis, souvent, on va parler chez les enfants. Je lisais cette semaine ce qui s'est écrit là-dessus. Puis on va dire souvent, la cause, c'est l'attachement. Il faut que l'enfant soit capable de développer un lien fort. Ça, ça se fait surtout dans la famille en oui. premier.
Il n'y a pas aussi le développement de l'autonomie?
Ah! Qu'est-ce que tu veux dire, au juste?
L'autonomie des enfants, la débrouillardise.
Qu'on leur inculque plus, on les couvre trop.
Oui, on les couvre trop. On les surprotège.
Oui, bien ça, c'est le propre aussi hein, d'une société vieillissante. Une société vieillissante devient une société anxiogène. Parce que les parents, ce n'est pas
des gens âgés, là.
Effectivement. Mais prends par exemple, Martin, moi j'aimerais ça qu'il y ait une étude qui s'intéresse à ce qui se passe dans les milieux de garde, dans les écoles, les thématiques qu'on aborde avec les enfants.
Ouais.
Les enfants sont tout petits, puis tout de suite, on leur dit, il faut que tu fasses des cubes d'énergie, parce que sinon tu vas être obèse, tu vas avoir des problèmes de santé.
Ouais.
L'enfant qui voit son parent obèse ou que lui, là, qui a déjà la préoccupation.
Mm.
Non, un jeune, là, sa mission, c'est jouer,
s'amuser,
avoir du plaisir, se faire des amis.
Et non pas d'être au pas, chef!
C'est ça, ou il faut recycler pour sauver la planète, sinon on va mourir, il y a juste une planète. Viens, on va aller manifester. Personnellement, je pense qu'on projette peut-être trop tôt sur nos enfants nos défis de société, puis l'impuissance, là, ça rend très anxieux.
Ouais.
Et un enfant est impuissant.
Ouais. J'espère que dans la continuité de ces fameuses études là, sur l'anxiété des jeunes, qu'on va mettre aussi au cœur de tout ça, parce qu'on dirait que personne ne veut en parler, mais de l'impact qu'ont les familles séparées. Que les enfants sont maintenant avec 3-4 parents, qu'ils vivent une semaine sur deux dans un milieu, une semaine sur deux dans une autre réalité complètement. Et des fois, c'est aux antipodes. On parle pas non plus de ce qu'on appelle les late, les enfants qui n'ont pas le même âge. Ils ont 2 ans, mais un qui est né en janvier puis l'autre en septembre n'a pas le même âge. Alors, c'est drôle, mais c'est deux petits points qui peuvent paraître peut-être banals. Je les trouve primordiaux dans le débat concernant l'anxiété dont on parle chez les tout-petits.
Oui, tout à fait. Puis quand tu dis une semaine chez papa, une semaine chez maman... Il y a aussi une semaine avec les enfants de la belle-mère, une semaine avec les enfants...
Aussi.
Tu sais, hein, on avait des frères...
C'est deux sociétés, des fois, là.
Oui, puis on avait des frères, des sœurs, hein, puis c'était pas toujours facile de s'entendre, puis tout ça.
Non.
Donc, imagine quand c'est quelqu'un avec qui tu dois vivre, qu'on t'impose, puis que peut-être t'as pas d'affinité pantoute avec.
Non, pas du tout, puis c'est pas les mêmes valeurs nécessairement qui sont transmises d'une maison à l'autre.
Ah oui, aussi, ça peut être très mêlant.
Puis je trouve que ces points-là sont peu abordés. Et pourtant, c'est tellement la réalité des enfants d'aujourd'hui.
Oui, effectivement, et aussi mon point, comme je dis, de quoi on leur parle là, dans les écoles.
Exact.
Un enfant qui revient de la garderie puis qui débranche les appareils électriques parce qu'il dit qu'il faut économiser l'électricité, il ne devrait pas avoir à se préoccuper de ça. Il ne devrait pas avoir à se préoccuper de ce qu'il y a dans son assiette. Il mange.
Et c'est un enfant.
Tout à fait.
J'ai souvent dit ce qu'on peut laisser des enfants être des enfants.
S'amuser.
Hélène Dauphinet, merci beaucoup.
Merci.
À demain.